Triel, seul, comme si rien ne s'était passé, il est revenu à son pupitre, là, se dictant à lui-même.
Mais le vieillard, tout à sa pensée, semblait ne pas s'en être aperçu. Soudain, élevant vers le ciel un regard de hautain défi, eh bien, cria-t-il, sois maudit, Dieu d'inclémence, Dieu d'injustice, toi qui n'as pas écouté mes prières, demeure à jamais abhorré. Je jette ton nom en pâture à l'exécration des générations à venir. Et allez donc, turlurette!
Il s'éponge le front.
Quel métier!
Il poursuit.
Comme il achevait ses épouvantables blasphèmes,
Il s'interrompt.
et le terrassier se plaint de son sort.
Il poursuit.
Un bruit de pas troubla le silence de la rue.
Il s'interrompt.
Et le mineur élève des revendications. De blême qu'il était, le vieillard devint livide. Et le cocher se met en grève. Si c'était lui, murmura-t-il. Oh, connaître enfin cet ennemi, le tenir haletant sur mon genou, arracher à son épouvante un aveu dans un dernier râle. À ce moment, un étranger déboucha de la rue de la Harpe. Le vieillard bondit comme un tigre, mais aussitôt une étrange défaillance s'empara de tout son être. Ses jambes fléchirent sous le poids de son corps, et poussant un cri terrible, il s'évanouit. J'ai dit 30 lignes sensationnelles. Sensationnelles! Je suis tranquille. Reste à savoir si elles sont 30. Comptons.
Il additionne du bout de sa plume. Réapparition de Valentine, vêtue d'un manteau de voyage et tenant une valise à la main. Valentine traverse la Seine et gagne la porte du fond.
Eh bien, adieu.
Ah, c'est toi. Tu t'en vas. Eh bien, adieu.
Tu n'as rien à me dire.
Non, pourquoi?
Je ne sais pas. Je pensais que peut-être.
Tu te trompais.
Je te fais mes excuses.
Il n'y a pas de quoi.
En somme, on peut se quitter faute de pouvoir s'entendre et conserver pourtant de l'estime l'un pour l'autre.
C'est évident.
N'est-ce pas?
Sans doute.
Alors c'est bien entendu.
Quoi?
Tu n'as rien à me dire.
Rien du tout.
Eh bien, adieu.
Eh bien, adieu.
Triel se remet à la besogne.
C'est égal, on m'aurait rudement étonné si on était venu me dire hier que tu me flanquerais à la porte aujourd'hui.
Je ne te flanque pas à la porte.
C'est le chat. Qu'est-ce que tu fais alors?
Je ne te retiens pas, c'est tout.
Mais.
Tu veux t'en aller, va-t'en. Tu ne penses pas que je vais te garder de force, m'imposer à ton aversion et te fixer au mur comme un gros papillon avec un clou dans l'estomac?
Et comme ça ne te fait rien.
Qu'est-ce qui ne me fait rien?
Que je m'en aille.
Ça ne te regarde pas, de quoi te mêles-tu?
Il me semble pourtant qu'après 5 ans de ménage, tu pourrais sans te compromettre me quitter sur une bonne parole.
Je te souhaite de te bien porter et de trouver là où tu vas le bonheur que je n'ai pas pu réussir à te procurer sous mon toit. Je t'ai un peu battu, je t'en demande pardon, bien que les coups que je te donnais m'aient été certainement plus douloureux qu'à toi et qu'au fond je sois excusable de m'être conduit en dément le jour où tu m'as rendu fou. Ceci dit, et le procès jugé de cette page d'histoire ancienne, je vis en paix avec moi-même. J'ai la conscience d'avoir été un tendre et fidèle mari. Patient à ton exigence, résigné à ta dureté, esclave aux petits soins de tes moindres caprices, et travaillant 10 heures par jour à écrire des romans ineptes, mais qui me valaient la joie de te pouvoir donner un chez-toi où tu avais chaud et des robes qui te faisaient belle. J'ai tout fait pour te rendre heureuse. Tu ne t'en es pas aperçue, n'en aie pas de remords, c'est dans l'ordre. La femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle, elle ne voit que ce que l'on ne fait pas.
En tout cas, tu pourrais m'embrasser.
Si tu veux.
Il va à elle, l'embrasse froidement, redescend ensuite à l'avant-scène.
Eh bien, adieu.
Eh bien, adieu.
Valentine, lentement, passe la porte, mais à peine a-t-elle disparu qu'elle rentre, dépose sa valise et revenant à son mari.
Donne-les-moi mes 150 francs.
Non.
Je t'en prie.
Je ne peux pas, je t'assure.
Pourquoi ?
Parce que j'ai eu la faiblesse de te pardonner trop de fois. Et que tu me l'as fait payer trop cher. Car avec vous encore, il n'y a pas de milieu. Si vous ne passez pas par nos mains, c'est nous qui passons par les vôtres. Alors flûte.
Valentine veut parler.
N'insiste donc pas. Je te dis que tu perds ton temps. Et puis que fais-tu là ? Tu ne t'en vas plus ? À cause. Je croyais que tu souffrais trop. Allons, va ma petite fille, sauve-toi. Retourne auprès de tes parents. Cela vaudra mieux pour nous deux.
Je t'en supplie, je t'en conjure. Donne-moi mes 150 francs. Si tu ne me les donnes pas, je vais devenir folle.
Pour ce que ça te changera.
Écoute.
Oh.
Valentine se cramponne à lui.
Laisse-moi donc parler pour les 150 francs.
Encore les 150 francs?
Tu me les retiendras un autre jour, le mois prochain, quand tu voudras, mais pas aujourd'hui, mon Dieu, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vois-tu, je les veux, il me les faut. J'en ai besoin.
Prielle, étonnée de la façon dont le mot a été prononcé.
À ce point-là? Regarde-moi un peu, Valentine. Tu as fait une bêtise.
Mutisme éloquent de Valentine.
Naturellement. Laquelle?
Tu ne crieras pas trop fort?
Je tâcherai. Va toujours.
Eh bien, j'ai un effet à payer aujourd'hui.
Tu as souscrit un effet?
Oui.
Cela ne m'étonne pas de toi. Ce qui me surprend, c'est que tu aies trouvé à le passer. La loi refusant à la femme le droit de signer des billets sans l'autorisation de l'époux, le tien est nul et sans valeur.
Pardon.
Comment pardon?
Sans doute.
Très simplement.
J'ai imité ta signature pour faire croire qu'il était de toi.
Et tu viens me dire cela avec ton air tranquille? Mais c'est un faux!
Qu'est-ce que ça fait?
À cette réponse inattendue, faite d'ailleurs sur le ton de la plus absolue bonne foi, Triel demeure sans un mot. Il contemple longuement la jeune femme, comme frappé d'admiration.
Allez donc répondre à cela!
Il complète sa pensée d'un large geste d'impuissance. Puis...
De combien le billet?
150.
Mazette, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Une acquisition, peut-être?
Une acquisition, en effet.
Indispensable?
Si on veut.
Nécessaire, au moins?
Cela dépend.
Enfin, utile?
Oui, et non.
Triel est effleuré d'une idée.
Une lanterne à verre de couleur.
Valentine baisse le nez.
En imitation de fer forgé.
Elle y est arrivée. Ça y est. Sais-tu que des gamins reçoivent des calottes qui les ont méritées moins que toi? A-t-on idée d'un tel appétit de lanterne?
Il garde le ton de la dispute, mais la conviction n'y est plus. Au fond, on sent qu'il perd pied devant cet excès d'enfantillage.
Enfin! Et où l'as-tu fourré, cette œuvre d'art? Va me la chercher que je la contemple! Que j'en grise mes yeux extasiés!
Mais Valentine ne bouge pas.
Allons, cours, vole, bondis, non?
Valentine, en effet, de la tête, a eu un non embarrassé.
Tu ne veux pas?
Même jeu de Valentine.
Tiens, 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 regarde-moi encore. Tu l'as cassé?
En l'apportant. Ce n'est pas ma faute, à moi, si c'était de la camelote. Elle avait un œil, mais un œil, mais tout le monde y aurait été pris. Alors qu'est-ce que tu veux? Je me suis laissé tenter. C'est donc de là que j'ai proposé au marchand, comme si j'étais venue de ta part, de nous faire crédit jusqu'à la fin du mois, moyennement un petit écrit. Alors le marchand a dit oui, alors je lui ai remis l'écrit que j'avais préparé d'avance. Alors il m'a remis la lanterne, enveloppée dans un grand papier. Et une fois à la maison, quand je défais le papier pour avoir la lanterne, le machin m'est resté dans une main, les choses dans l'autre. Voilà comment c'est arrivé.
Tout ce récit a été dit d'une voix larmoyante de petite pauvre, secouée de sanglots mal contenus.
Le machin terrestre est dans une main, la chose dans l'autre. Tiens, tu es trop bête, tu me désarmes. Les voilà tes 150 francs. Et puis mite là encore ma signature, tu verras un peu si ce coup-là je te fais pas mettre en prison. Tu n'as pas honte?
Merci, Édouard.
Faussaire. Canaille. Mouche ton nez.
Et les autres?
Quels autres?
Les autres 150 francs.
Oh, ça par exemple, c'est le comble? Il faut encore?
Dame, ce n'est que juste. Cela, c'est pour payer ton billet.
Triguel lève les yeux au ciel.
Mon billet? Allons, file, que je ne te revoie plus et que je n'entende plus parler de toi.
Alors, tu...
Quand la banque passera, je verrai ce que j'ai à faire.
Du coup, délivrée à la fois de la crainte d'une diminution et de la terreur du gendarme, Valentine se sent touchée. Elle va à Triel, le fixe dans les yeux, puis d'une voix où se trahit la profonde surprise d'une personne qui fait tout à coup une découverte inattendue.
C'est pourtant vrai que tu es un bon mari.
Il est fâcheux que tu t'en aperçoives le jour seulement où je réussis à te faire peur.
Elle ne répond que d'un petit mouvement de corps, tendre et câlin. Un remords qui se fait caresse. Elle se glisse dans son bras, dont ensuite, de force, elle se ceinture la taille, et elle demeure nichée, honteuse, le front reposé à l'épaule du jeune homme qui l'a laissé faire sans rien dire.
« Oya képhalé, dit le renard d'Ésope, kai enképhalon ou kékei. »
« Qu'est-ce que tu dis ?»«
Rien, c'est du grec. »«
Comme tu es gentil quand tu veux. »
Elle sort lentement, son argent à la main. Triel la suit du regard. « Que de puérilité, mon Dieu! Que d'inconscience! Que de faiblesse !» Elle disparaît enfin. Triel reste seul. Alors, il hausse les épaules et, d'une voix qu'on entend à peine, il murmure, le cœur plein de pitié, cette simple exclamation.
« Misère !»
Cependant, le travail le réclame. De nouveau, il revient à son pupitre, où, achevant de contrôler l'importance de son feuilleton,
« 317, 319, 320, le Contillet. »
Il dit, trempe sa plume dans l'encre, puis, se dictant à lui-même,
« La suite au prochain numéro. »